Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous. Notre invité ce matin est l'un des ministres de poids du gouvernement. Il se compte sur les doigts d'une main. Propulsé numéro 2, il détient le record de longévité à Bercy. Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Et merci d'être avec nous, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Vos chantiers et défis sont nombreux. Il y a bien sûr l'urgence en cette période d'inflation. Et puis la vision du politique à long terme, quelle est-elle au moment où la majorité semble saisie de doutes à une semaine des législatives? Les sondages prennent un tour inquiétant, sueur froide. À l'Élysée, titre le journal du dimanche, alors que Jean-Luc Mélenchon s'installe ou veut s'installer en premier opposant. Nous allons en parler. À mes côtés pour vous interroger, mes camarades, Cécile Cornudet des Échos. Bonjour à vous, Cécile.
Bonjour, Sonia.
Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Bruno Le Maire, tout d'abord, grêle, foudre, pluie. C'est un cocktail dévastateur qui a touché plusieurs communes de notre pays. Le déclenchement de l'état de catastrophe naturelle devrait être mis en place peut-être fin de semaine. Ça veut dire que pour les assurances, ça va être rapidement également déclenché?
Ça doit être rapide et nous veillerons à ce que ce soit rapide pour tous les Français, en particulier pour nos amis agriculteurs qui ont été très touchés. Ils sont déjà dans une situation difficile avec l'augmentation du prix des intrants, des engrais azotés. Il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui dans le monde agricole. Nous allons étudier département par département là où il faut déclencher le dispositif de calamité agricole avec Marc Fesneau et nous ferons au plus vite. Ça me permet d'ailleurs de rappeler au passage que nous avons fait adopter au cours du précédent quinquennat un dispositif majeur, qui est le dispositif d'assurance agricole, qui permettra justement de faire face à ce genre de calamité de manière beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace et beaucoup plus protectrice. Il sera mis en œuvre au début 2023.
Alors, dégâts matériels, rappelons également que le bilan fait état d'un mort et de 15 blessés. Vous avez parlé des difficultés plus largement, Bruno Le Maire. Nous sommes dans un pic d'inflation, c'est ce que vous avez dit. Et même si la France, il faut le dire, est l'un des pays de la zone euro avec l'inflation la moins forte, cela reste quand même sans précédent depuis 40 ans. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aura une décrue que vous situez précisément fin 2023?
D'abord, je voudrais rappeler les propos du commissaire européen Thierry Breton. La France est le pays qui gère le mieux cette inflation. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Thierry Breton, commissaire européen. Et la réalité est qu'effectivement, nous avons aujourd'hui le taux d'inflation le plus faible des pays de la zone euro, à peu près 5%. Pourquoi? Parce qu'avec le président de la République, nous avons anticipé cette inflation. On avait bien vu que la reprise était très forte, donc il y a eu à avoir des tensions sur l'offre de produits. Ensuite, il y a eu la crise ukrainienne qui s'est rajoutée à cela au début 2022. Donc tout cela a provoqué une flambée des prix, face à laquelle notre première responsabilité est de protéger les Français. Et nous continuerons à les protéger. Mais ensuite, j'ose espérer que dans le courant de l'année 2023, les chaînes de valeur se remettront en ordre. On peut espérer que la Chine se rouvrira. C'est aussi un des éléments de tension. Et donc nous anticipons qu'après ce pic inflationniste de 2022, dans le courant de l'année 2023, on devrait revenir à une inflation plus raisonnable. Mais je veux être très clair aussi.
On devrait.
Cette inflation plus raisonnable restera plus élevée que ce à quoi nous étions habitués. On était habitués à une inflation de l'ordre de 1%. Nous aurons une inflation qui sera plutôt autour de 2% pour deux raisons très simples. La première, c'est que la transition climatique coûte très cher et tire les prix vers le haut. Et la seconde, c'est que la régionalisation des chaînes de valeur, le fait qu'on se remette à produire chez nous, je suis ministre de la Souveraineté industrielle et numérique, c'est très bien,
forcément, oui.
Mais c'est un peu coûteux.
Mais dites-nous,
bon, l'inflation sur l'électricité, sur l'énergie, elle est quand même beaucoup liée à la guerre en Ukraine. Donc qu'est-ce qui peut laisser penser qu'en 2023, il y aura une amélioration de ce côté-là?
Alors elle est d'abord liée, la flambée des prix de l'électricité, du gaz, elle remonte à l'automne 2021. Et la France est le seul pays, sous autorité du président de la République à l'époque de Jean Castex, à avoir dit « attention ». Les prix de l'énergie vont fortement augmenter, donc il faut un bouclier tarifaire. Et nous l'avons mis en place à l'automne. C'est ce qui explique
donc,
que nous ayons...
de la guerre en Ukraine, c'est ça que
la guerre en Ukraine, elle ne fait qu'accentuer un phénomène qui est plus profond. Et notre responsabilité maintenant, c'est d'accélérer la transition énergétique, c'est d'être plus indépendant en matière de production énergétique, parce que c'est la meilleure réponse pour faire face à cette flambée.
Mais Bruno Le Maire, pardon, ce pic inflationniste, il dure aussi parce que la guerre en Ukraine dure, parce qu'il nous faut trouver, comment dire, un approvisionnement de substitution au pétrole russe. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir quand la guerre se termine. Donc c'est difficile de, quand même d'avoir une lecture comme fin 2023.
On ne sait pas combien de temps durera cette guerre, bien entendu. Elle peut s'inscrire dans la durée. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises. Mais nous allons, d'un côté, accélérer les investissements dans la transition énergétique. La loi de simplification qui est prévue pour les semaines qui suivront les élections législatives, elle vise justement à accélérer le déploiement des énergies renouvelables parce qu'on met beaucoup de temps, beaucoup trop de temps pour déployer, par exemple, des champs éoliens offshore. On va accélérer le déploiement de la transition énergétique. Et puis, on cherche aussi, soyons clairs, des substituts à l'approvisionnement en gaz ou en diesel venu de Russie. Par exemple, les Émirats arabes unis peuvent être une solution de remplacement, au moins temporaire, au pétrole
c'est
et au diesel russe.
Hein, ce sont des discussions
Plus qu'à l'étude, c'est des discussions qui sont déjà engagées avec les Émirats arabes unis. Il faut que nous trouvions une alternative au pétrole russe. Et je le redis à quel point la décision qui a été prise de l'embargo sur le pétrole russe est à l'honneur de la présidence française de l'Union européenne et à l'honneur de
l'Union
européenne.
Là, vous répondez à des critiques, notamment de certains comme Marine Le Pen, qui vous disent « Oui, mais vous ne pensez pas au pouvoir d'achat. À un moment, les opinions publiques risquent de se retourner en disant « Écoutez, ça pèse trop lourd
sur le panier. » Moi, je pense à l'indépendance française. Donc, visiblement, Marine Le Pen n'a pas grand-chose à faire. Elle est dans les mains de M. Poutine. Si elle veut continuer à apporter 800 millions de dollars par jour, tout à fait, Sonia Mabrouk, par jour à Vladimir Poutine, c'est son droit. Mais nous, nous défendons une politique d'indépendance vis-à-vis de Vladimir Poutine, une politique d'indépendance énergétique. Visiblement, ce n'est pas la ligne du Rassemblement national qui est sur la ligne de la capitulation.
Bruno Le Maire, dans son entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron annonce un Conseil national de la refondation pour rassembler les forces vives dans un effort de modernisation, de réforme. Les oppositions disent usine à gaz, quinquennat du blabla. Dans quelle mesure ont-ils tort ?
Je pense qu'ils ont totalement tort, mais je suis sidéré de voir cette France d'escrocs gnieux qui, à chaque fois que nous faisons une proposition, vous tombe dessus à bras raccourcis. C'est les mêmes qui ont reproché, il y a quelques semaines, voire pendant toute la durée du quinquennat, à Emmanuel Macron d'être trop vertical, trop jupitérien. Il n'avait pas de mots assez durs pour critiquer l'exercice du pouvoir vertical par Emmanuel Macron. Ben c'est les mêmes, toujours avec cet état d'esprit scrogneux où jamais rien ne va, qui vous disent « mais ouvrir les grands débats avec le peuple français, avec les associations, avec les syndicats, c'est complètement inutile, c'est du blabla ». Mais non.
Et c'est
non,
le grand débat permanent qu'elle faisait référence à Emmanuel Macron ?
Mais ce n'est pas un grand débat permanent, c'est simplement comprendre qu'aujourd'hui, les Français ont effectivement besoin d'une refondation des grands choix qui rassemble la société française.
Ça veut tout dire et rien dire. Vous dites scrogneux. Est-ce qu'ils ne sont pas lucides, les oppositions, justement ? Vous
non,
avez installé
redis,
ce pouvoir
ils sont,
vertical
ils
et aujourd'hui,
sont,
vous faites l'éloge de l'horizontalité.
Je les écoute, toutes ces oppositions, et je les respecte, bien entendu. Mais moi, je combats cet état d'esprit scrogneux. Il y a cette façon de systématiquement critiquer, attaquer, ne jamais voir les opportunités, ne jamais faire preuve d'un peu d'enthousiasme pour son pays. Moi, je crois profondément, comme le président de la République, que sur nos institutions, sur le fonctionnement de la démocratie, sur nos grands choix climatiques, il y a besoin de nous rassembler avec l'ensemble des représentants du peuple français, que ce soit des élus, des syndicalistes, des associations, des citoyens tirés au sort, pour ouvrir ce débat, pour échanger ensemble. Je pense que ce Conseil national de la refondation sera utile, qu'il va permettre de libérer des paroles qui ont besoin de s'exprimer, qui vont nous permettre de nous poser des questions fondamentales sur le fonctionnement de la démocratie et que peut-être même au-delà de la France. Ça permettra de montrer l'exemple d'une nation qui réfléchit à ce qu'est la démocratie au XXIe siècle. C'est une excellente chose.
C'est sacrément ambitieux,
oui. Mais c'est Emmanuel Macron lui-même qui, après le quinquennat Hollande, avait dit le dialogue social, les concertations, c'est facteur d'immobilisme. En quoi cette nouvelle structure ne sera pas facteur d'immobilisme, et notamment sur les retraites? On a l'impression quand même que la tonalité a changé. Emmanuel Macron parle maintenant de l'été 2023, alors qu'on était 6 mois plus tôt. Le Conseil des retraites reporte son rapport à la rentrée. Il n'y a plus de chiffres prononcés, 64 ans et a fortiori 65 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une dilution de l'ambition en matière de réforme des retraites ?
Vous connaissez l'histoire de Voltaire qui un jour rentrait de Ferney et était très pressé de rentrer à Paris. et donc son cocher accélère, le carrosse menace de verser dans le fossé, et Voltaire passe la tête par la fenêtre et dit à son cocher « Ralentissez, monsieur, je suis pressé ». Ben, c'est exactement ça.
Ah bon, c'est de l'urgence
si,
d'attendre.
Non, mais si on veut vraiment aboutir sur la réforme des retraites, qui est fondamentale, je ne l'ai jamais caché, pour moi c'est une priorité, c'est essentiel que nous arrivions tous à travailler davantage. Il faut prendre le temps de la concertation. Il faut prendre le temps d'un dialogue approfondi. J'ai reçu moi-même le représentant de la CFDT, Laurent Berger, le dirigeant de la CFDT.
Il y a une voie de passage avec lui, même à 64 ans.
Je pense qu'il faut que nous cherchions des voies de passage avec tous. Après, la décision appartiendra,
à l'entendre, on n'a pas
l'impression
qu'il y en ait une.
Au président de la République, à la majorité qui aura été élue, et nous n'avons jamais fait mystère de notre détermination totale à faire en sorte que l'ensemble des Français travaillent davantage. D'abord par le plein emploi, et ensuite par une réforme des retraites. Parce que c'est la prospérité de nos enfants qui en dépend. Et que c'est dans le fond ce qui fait la différence entre notre projet et celui de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Eux veulent que la France travaille moins. Nous, nous voulons que la France collectivement travaille plus pour garantir notre
prospérité
et financement de notre système social.
Vous dites prospérité de nos enfants. Il y a quelques jours, vous avez dit que la réforme des retraites, c'était pour payer moins d'impôts. Quel est l'objectif finalement de cette réforme précisément?
L'objectif, c'est effectivement créer de la prospérité, que l'ensemble de la France travaille davantage. Chaque personne qui travaille, travaille beaucoup en France, est totalement engagée dans son travail, mais il se trouve que nous gardons un taux de chômage qui reste encore trop élevé. Premier objectif, le plein emploi. C'est l'objectif stratégique du quinquennat. Deuxième objectif, faire en sorte que nous n'ayons pas le taux le plus faible de personnes de plus de 55 ans qui travaillent dans les pays développés, ou l'un des plus faibles. C'est l'objectif de la réforme des retraites, inciter à travailler plus longtemps, tout en tenant compte, je le précise, des carrières longues, de la difficulté de certains métiers. Nous y ferons très attention. Tout cela nous permet quoi ? Tout cela nous permet de financer notre système de protection sociale et de financer notre retraite par répartition. Ceux qui proposent la retraite à 60 ans mentent aux Français.
C'est la panacée, cette réforme des retraites.
Mais c'est pas
à
la panacée,
vous entendre,
demande,
elle va tout ramener.
Mais ça ne va pas
sans
tout régler.
Sans esprit scrogneux.
Je dis simplement qu'elle est absolument essentielle pour garantir le maintien de la solidarité entre les générations en France. Et que ceux qui proposent la réforme à 60 ans sans avoir le premier euro pour la financer, ils mentent aux Français. Ils savent très bien, au fond d'eux-mêmes, que la seule façon de financer la retraite à 60 ans, c'est soit d'augmenter les cotisations de ceux qui travaillent, donc que nos jeunes soient moins bien payés, soit baisser les pensions des retraités. Eh bien nous, comme nous refusons catégoriquement de baisser la pension des retraités, au contraire, on va la revaloriser. Et comme nous refusons catégoriquement toute augmentation de taxes et d'impôts, nous sommes cohérents, nous proposons la réforme des retraites.
Mais à vous entendre, c'est une réforme qui va de soi. Pourtant, les oppositions sont très nombreuses. Pour vous, c'est encore une fois l'esprit scrogneux où il y a des raisons légitimes pour lesquelles bien les Français s'y opposent.
Là, c'est un autre esprit, c'est celui de l'aveuglement. C'est l'autruche qui met la tête dans le sable. Ça, dans l'opposition, on le voit beaucoup.
Mais les Français,
l'opposition, d'accord, mais chez les Français qui s'y opposent,
vous comprenez leur réserve. Ça, c'est autre chose, mais je pense que quand on est un responsable politique, dans responsable politique, il y a le mot responsabilité. Et la responsabilité, c'est de bien faire comprendre à tous nos compatriotes que si nous voulons maintenir cette solidarité entre les générations, ceux qui travaillent financent les retraites de ceux qui ne travaillent plus, eh bien, il faut engager cette réforme des retraites. Et je regrette que cet esprit de responsabilité fasse défaut à beaucoup de représentants de la
classe politique. On va continuer à en parler sans esprit scrogneux, mais avec lucidité, évidemment, pour aussi les atouts de la France, ses difficultés, ses défis, puis la politique également. À tout de suite.
10h, 11h, le grand rendez-vous européen.
Avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet.
Mathieu Bock-Côté.
Sonia Mabrouk.
Et ce dimanche, notre invité Bruno Le Maire, nous avons parlé évidemment des défis urgents, inflation, pouvoir d'achat et puis aussi retraite. Et plus long terme, l'état de la France. Bruno Le Maire, l'opposition vous accuse de masquer un scénario probable de récession, de ne pas évoquer de sombres perspectives avant les législatives, de masquer la réalité de l'état de la France. Que répondez-vous à cela ?
D'abord que je n'ai jamais masqué les difficultés. Je crois avoir dit il y a maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que le plus difficile était devant nous. Difficile, nous y sommes. Le plus difficile pour nos compatriotes qui nous écoutent, ça se résume en un mot, inflation. L'augmentation des prix alimentaires, des prix de l'énergie, ça pèse sur la vie quotidienne de nos compatriotes. Donc c'est l'urgence absolue, continuer à protéger contre l'inflation. Mais pour le reste, l'économie française est solide. Nous aurons une croissance positive en 2022. Ça, je réviserai le chiffre, bien entendu.
À la baisse.
Je réviserai le chiffre parce qu'il était de 4%. Il est évident qu'avec la guerre en Ukraine, l'inflation, tout cela va remettre en cause les perspectives. Mais nous aurons une croissance positive en 2022.
Pourquoi vous ne révisez pas maintenant ?
Parce qu'il y a un projet de loi de finances rectificative.
Que vous pouviez présenter maintenant.
Il sera présenté, je pense que c'est mieux pour la sérénité du débat public. Il sera présenté après les élections législatives. Et on donnera tous les éléments à ce moment-là. Mais l'économie française est solide. Elle a su faire face à la crise du Covid. Elle a été relancée plus rapidement que toutes les autres économies. Elle a retrouvé son niveau d'activité d'avant-crise, la première de la zone euro. C'est bien la preuve qu'elle a du ressort, l'économie française.
Aujourd'hui, face à l'inflation...
Non, mais ce que je constate, c'est qu'à chaque fois, l'économie française fait preuve d'une capacité de résistance et de rebond exceptionnelle. Nous sommes sortis les plus vite de la crise du Covid et nous résistons les mieux de tous les pays de la zone euro à l'inflation. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment donné, se dire que, oui, grâce aux entrepreneurs, grâce aux salariés, grâce aux indépendants,
aux
commerçants,
vives,
aux artisans, grâce à toutes ces forces vives, nous avons des capacités exceptionnelles.
Mais est-ce que la France a franchi, c'est aussi quand même un sujet de préoccupation, vous avez parlé tout à l'heure des générations futures, est-ce que la France a déjà franchi, peut-être sans qu'on le sente, j'allais dire, le cap symbolique des 3 000 milliards d'euros de dette publique? Certains disent que ça y est, on y est.
Mais sur la dette publique, ça fait partie, évidemment, de la lettre de mission qui m'a été fixée par Elisabeth Borne, la Première ministre, et par le Président de la République. Et vous savez, les choses sont extrêmement simples. Il faut continuer à transformer l'économie française pour qu'elle soit compétitive, productive, et qu'elle nous donne une croissance qui soit forte et solide. Nous allons continuer cette transformation que nous avons engagée depuis 5 ans. Et nous allons la continuer en privilégiant une politique de l'offre qui soutient la compétitivité des entreprises. Si le Président de la République avait souhaité changer de politique, sans doute qu'il aurait changé de ministre de l'économie et des finances. Il ne l'a pas fait. Mais nous avons également, et le cap est extrêmement clair, affirmé à nos partenaires européens, affirmé à nos compatriotes, que nous reviendrions sous les 3% de déficit en 2027 et que nous engagerions la baisse de la dette publique à partir de 2026. Moi, ma responsabilité, c'est de tenir ces deux dates, 2026, baisse de la dette publique, 2027, retour sous les 3%
de déficit.
Mais
notre responsabilité, c'est de vous demander comment, où sont vos économies, parce que personne n'imagine autour de cette table, et probablement ceux qui nous regardent et nous écoutent, que vous avez accepté de poursuivre à Bercy pour être le ministre de l'explosion de la dette, des taux et de l'inflation.
Vous avez tout à fait raison.
Donc,
je ne peux pas vous dire le contraire.
Vous avez dû mettre
des garde-fous. Comment est-ce que nous faisons ?
Mais la dette,
c'est
une question de souveraineté aujourd'hui.
Bien sûr. Si vous avez une dette trop importante, ça réduit votre souveraineté. Donc, il est essentiel, surtout dans une période où nous savons que la Banque Centrale Européenne va normaliser sa politique monétaire, il est essentiel de tenir ce cap, baisse de la dette 2026, retour sur 3% de déficit 2027. Comment ? D'abord, en créant de l'activité. La meilleure façon d'atteindre ces chiffres-là, c'est le plein emploi. C'est que tout le monde ait un travail et une activité en France, parce que ça fait de l'activité, ça fait des cotisations, ça fait des recettes, et ça nous permet tous de vivre collectivement beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est la poursuite des réformes de structure. On l'a fait sur l'assurance chômage, nous allons le faire sur les retraites. Tout ça est une façon de transformer le pays dans le bon sens pour qu'il y ait plus d'activité pour tous. Puis la troisième chose, je tiens à le dire très clairement, y compris d'ailleurs à la majorité, parce que le cap a été fixé clairement par Elisabeth Borne et par le Président de la République, nous sommes sortis du quoi qu'il en coûte. Chaque euro compte.
Les économies, par exemple, on ne voit pas.
L'argent pour l'école, tant mieux. L'argent pour la santé, tant mieux. Mais
sortir de quoi qu'il en coûte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne sommes pas dans l'extinction d'une crise économique et d'une récession telle que nous l'avions connue pendant le Covid, où l'activité française s'était littéralement effondrée. Il fallait éteindre l'incendie. Nous avons été efficaces. Nous avons protégé les entreprises. Nous avons évité du chômage de masse. Et c'est pour ça que nous avons rebondi aussi fort. Mais aujourd'hui, nous privilégions une approche qui va être plus ciblée. Et je veux le dire avec beaucoup de gravité, chaque euro compte. Simplement parce que chaque euro a été gagné par le travail des Français.
Donc, attendez, après les législatives, toutes les mesures seront beaucoup plus ciblées. On a vu que ce matin, dans le journal de dimanche, une cinquantaine de députés MoDem vous demandent justement à ce que le chèque alimentaire soit ciblé, soit bien identifié, bien ciblé.
Moi, je vais travailler avec toute la majorité, les représentants du MoDem. J'ai lu cette tribune qui est très, très juste. Vous avez aujourd'hui des millions de nos compatriotes qui n'arrivent pas à avoir accès à des produits alimentaires de qualité. Des millions d'entre eux, quand vous discutez avec la distribution, qui vont se ruer vers le prix le plus bas, les promotions les plus fortes. Eh bien, il faut aider nos compatriotes, quand on est une grande puissance économique comme la nôtre, à se nourrir correctement, à s'alimenter sans difficulté financière. C'est l'objet de ce chèque alimentaire. Je ne vais pas vous cacher la vérité, comme toujours, je suis très franc. C'est compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de distribuer de l'argent public pour financer des produits alimentaires bas de gamme qui sont produits à l'extérieur des frontières françaises. Donc ce n'est pas simple, nous y travaillons et je pense qu'avec de la bonne volonté, nous trouverons la bonne solution.
Le tout avant les législatives, on va commencer évidemment à aborder cette partie-là. Mais tout d'abord, Bruno Le Maire, Jean-Michel Blanquer a été entarté hier et insulté à Montargis. Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuvre dans le Nord. Ses agressions plus largement se multiplient. De quoi est-ce le révélateur selon vous ?
C'est bon, elles sont inacceptables. Qu'elles touchent Marine Le Pen ou Jean-Michel Blanquer, à qui j'ai marqué mon amitié hier, c'est inacceptable. Il n'y a pas de place pour la violence dans le débat démocratique. Et certains, vous savez, prennent ça un peu à la légère. Oh, c'est que de la farine, c'est que des œufs. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement brutal. Mais c'est totalement inacceptable.
Mais de quoi
et ça doit être lourdement sanctionné. C'est symptomatique d'une dégradation du débat public que nous ne pouvons pas laisser prospérer. Alors, c'est des gestes isolés. C'est pas partout. Moi, je fais des déplacements partout en France. Je me suis rendu en Alsace, à Colmar, à Célestin. Je me suis rendu dans le Saône-et-Loire. Tout ça s'est très bien passé. J'ai multiplié les déplacements. Mais nous ne sommes pas à l'abri à chaque fois de ces gestes isolés. Ces gestes sont isolés, doivent rester isolés, doivent être dénoncés et sanctionnés.
Ce sera le cas, probablement, en tous les cas, pour Jean-Michel Blanquer, puisqu'il s'agit de deux enseignants. On verra quelle sera la suite, puisqu'ils sont en garde à vue. On va marquer une courte pause, on va venir à la politique. La majorité en plein doute. Vous avez lu le titre du JDD ce matin, Bruno Le Maire ? Sueur froide, vous en avez ?
Moi, j'adore Hitchcock, mais je ne partage pas le titre du JDD.
À tout de suite, une courte pause.
Europe 1, 10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et notre invité Bruno Le Maire, à une semaine des législatives, les sondages prennent un tour inquiétant. La une du JDD, vous l'avez commenté, sueur froide à l'Élysée. La question vous est posée par Mathieu Bock-Côté.
Alors, elle est toute simple, cette question. La majorité était conquérante. Elle est désormais un peu inquiète. Qu'est-ce qui se passe mal ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en ce moment dans la campagne de la majorité ?
Bon,
vous nous direz que tout va bien, mais imaginons que tout soit pas parfait.
Tout n'est jamais parfait. Ah bon. C'est partie de la réalité de la vie. Mais moi, je garde un état d'esprit très conquérant. Je suis convaincu que le président de la République aura la majorité à l'Assemblée nationale.
Vous ne sentez pas monter la nupe ?
Non, enfin, vous savez, je suis une fois encore au contact de nos compatriotes, en déplacement très régulièrement. Je vois que nos électeurs ont conscience de la nécessité de donner une majorité au président de la République pour que nous puissions agir. Enfin, je rappelle que le président de la République a été élu avec 58% des voix. Sur un projet qui est très clair. Et comme les Françaises et les Français sont lucides, ils savent qu'il faut que le président de la République ait une majorité pour mettre en œuvre ce projet auquel ils ont donné leur feu vert au moment des élections présidentielles. Je pense aussi que chacun mesure bien que ce qui est singulier dans ces élections législatives, c'est qu'il est arrivé dans le temps qu'il y ait des nuances entre les projets des différents partis politiques. Là, ce sont des destins différents pour la France qui sont sur la table. Et je voudrais que chacun, tous ceux qui pensent que ces élections sont à prendre à la légère, remettent un peu de gravité et comprennent que c'est le destin de la nation française qui est en jeu. Ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est très simple. C'est une France qui travaille moins. C'est une France qui réduit le temps de travail. C'est une France qui ne fait pas de réforme des retraites, mais qui promet de partir à la retraite à 60 ans.
C'est séduisant pour une partie de la France.
Oui, d'accord, mais
c'est la réalité.
Ça peut être séduisant. Ce qui est moins séduisant, c'est que pour redistribuer des richesses, il faut d'abord les produire. C'est ce qu'a oublié M. Mélenchon. Lui, il redistribue les richesses à tout va, mais il ne veut pas les produire et il veut même accabler d'obligations et de contraintes tous ceux qui produisent des richesses, les PME, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants. Il faut que chacun ouvre les yeux sur les projets qui sont devant nous. Ce sont des projets qui sont radicalement différents.
Mais vous le caractérisez d'abord par son anticapitalisme.
Je le caractérise par trois choses. Son autoritarisme. Regardez son projet, il est plein d'obligations et de contraintes. Ça fait partie de ces formations politiques qui veulent faire le bonheur des gens à leur place. Je m'en suis toujours méfié. Je le caractérise en deuxième lieu par la collectivisation des moyens de production et le refus du travail. Dans le fond, l'arrière-pensée du projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est que moins on travaille, mieux on se porte. Il promet même, pour certains, le retour aux 32 heures.
Bah, c'est le mieux
et
vivre,
la troisième chose,
tout simplement, c'est ce qu'il dit aussi.
Et la troisième chose, c'est un projet communautariste, dans lequel la nation n'est plus une nation universelle et unie, mais une somme de communautés dont on respecterait les langues, les mémoires, les coutumes, les cultures, alors que pour moi, c'est la nation française qui doit passer en premier. Voilà le projet de M.
Mais
Mélenchon.
Bruno Le Maire, pardonnez-moi, vous avez tiré le péril rouge, qui est le péril brun, pardonnez-moi, à la présidentielle. Là, vous tirez le péril...
Je n'ai jamais employé ces termes-là. J'essaie de décrire de manière très précise.
Le président de la République a parlé d'extrême droite.
Je ne travaille pas comme ça, je le dis
mais
très simplement.
Mais ce n'est pas vous qui avez favorisé la percée de Jean-Luc Mélenchon.
Je ne travaille pas comme ça, c'est-à-dire je n'y vais pas à coup de slogan. Je lis les projets. Et donc le projet de M. Mélenchon, si je le lis bien, est communautariste. C'est un projet collectiviste. Et c'est un projet autoritaire. Je n'en veux pas pour la France. Mais... Et je veux que chacun s'en rende compte. De l'autre côté, lisez le programme de Marine Le Pen. Je l'ai lu aussi attentivement. Tous les travailleurs frontaliers, j'étais en Alsace il y a quelques jours, sont très heureux d'apprendre que Mme Le Pen veut rétablir le contrôle aux frontières de l'Union européenne. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que demain, si elle devait avoir une majorité, on rétablirait les contrôles aux frontières entre la France et l'Allemagne, compliquant la vie de centaines de milliers de nos compatriotes qui chaque jour font l'aller-retour.
Est-ce que ce n'est pas vous qui avez fait monter ces extrêmes, à la fois à l'extrême droite et à l'extrême gauche, parce que vous faites une campagne tardive, parce que vous avez fait une campagne un peu dépolitisée, parce que le président est entré de plein pied en campagne là, à la faveur et à l'aune de cet entretien à la presse régionale? N'êtes-vous pas responsable de ce que vous dénoncez ici même?
Je ne crois pas, je fais campagne et je suis engagé politiquement depuis le premier jour de cette campagne, je ne pense pas avoir
il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas d'effervescence, vous le sentez bien.
Avoir ménagé mes forces dans cette campagne législative.
Une campagne, certes,
et vous demanderez à tous ceux qui m'ont eu la gentillesse de m'accueillir.
Et vous sentez un enthousiasme autour de vous?
Oui,
vous
je sens un enthousiasme autour de la majorité. Je sens la volonté de donner au président de la République une majorité claire. Et je vais vous dire, on peut en débattre pendant des heures et des heures. Il y a un juge de paix. C'est le peuple français. Il se prononcera dimanche 12 juin et dimanche 19 juin. Mais... Et ma conviction intime, nourrie des centaines de rencontres que j'ai faites depuis plusieurs semaines, c'est qu'ils donneront une majorité au président de la République. Mais malgré tout, j'insiste sur le fait que les projets aujourd'hui qui sont sur la table sont rigoureusement incompatibles, que c'est des destins différents qui s'offrent à la France et que par conséquent, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui croient dans le projet du président de la République, tous ceux qui croient dans la valeur du travail, dans l'entrepreneuriat, dans la construction européenne, dans l'unité de la nation française, doivent se mobiliser.
Mais
ils ne peuvent pas traiter par-dessus la jambe.
On dirait que c'est vous
ils
le chaos.
Ils ne doivent pas traiter par-dessus la jambe une élection qui est un moment fondamental, aussi important que l'élection présidentielle pour l'avenir de notre
pays. Est-ce que les projets politiques ne sont pas plus difficiles à lire? Je m'explique. La majorité...
Moi, il me semble très simple à lire.
Vous allez voir. La majorité, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron, rassemble à la fois des gens de la droite bonapartiste et de la gauche écologiste. C'est ce qu'il appelait l'extrême-centre. Bon, vous vous souvenez de la formule, c'était une semaine avant le premier tour. Donc, la campagne de premier tour, une campagne plutôt de centre-droit, la campagne de deuxième tour, une campagne marquée à gauche, et de l'autre côté, le projet de la gauche mélenchoniste, qui lui est plus clair quand même, plus identifiable, très critiquable certes, mais plus clair. Est-ce que c'est pas le problème en ce moment de la majorité? Un programme difficile à percevoir avec une gauche beaucoup plus claire qui fait de la politique, elle?
Je trouve pas qu'il y ait beaucoup de clarté dans un projet de gauche qui rassemble des Verts, des socialistes, dans une espèce de gigantesque course aux places où pour sauver des circonscriptions, on abandonne ses convictions. Je vois au contraire beaucoup de cohérence dans le projet qui est porté par la majorité, par le président de la République. Le travail, la juste rémunération du travail, le plein emploi, c'est cohérent. Le soutien aux entreprises pour qu'elles soient plus compétitives, oui, nous allons continuer à baisser les impôts de production. Et dès le projet de loi de finances de 2023, il y aura une baisse de la contribution à la valeur ajoutée pour diminuer les impôts de production, relocaliser l'industrie, recréer des emplois industriels dans notre pays. C'est cohérent. On ne s'est jamais caché que nous soutenions l'esprit d'entreprise dans le pays. L'intégration européenne, la volonté d'être une grande puissance dans un grand continent européen, ça a toujours fait partie de notre ADN politique. L'unité de la nation. Enfin, je rappelle, Mathieu Bock-Côté, que la première décision que voudrait prendre Jean-Luc Mélenchon, c'est l'abrogation de la loi contre le séparatisme. Nous luttons contre le séparatisme. Donc je vois de la cohérence, de la clarté, de la force dans le projet présidentiel. Et j'appelle donc tous ceux qui soutiennent ce projet à se mobiliser pour les élections législatives.
Politiquement, moi on vous entend depuis quelques jours, Bruno Le Maire, vous qualifiez Jean-Luc Mélenchon de tous les mots, là, le programme, lui, de Chavez-Gaulois, mais est-ce que vous reconnaissez que politiquement, eh bien, il a su donner le ton, le là de ces législatives? Vous pouvez le critiquer, la réalité c'est qu'il apparaît et vous en avez fait le premier opposant. La preuve,
il
vous ne parlez
de la politique,
que de lui.
Jean-Luc Mélenchon.
Comme vous.
Et comme moi. Oui. et comme j'appelle aussi tous les membres de la majorité à en faire.
Nous devons
faire
de
la politique. Faisons plus de politique. Mais de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire en montrant que la politique n'est pas un jeu de querelles, de places, de personnes, mais que dans la politique se joue le destin de la nation française, se joue le destin de notre patrie, se joue le destin de nos enfants. Et tous ceux qui considèrent que dans le fond, leur vote ne compte pas, je crois qu'ils ont tort. J'ai envie de dire ce matin aux Françaises et aux Français, vous avez le pouvoir. Et ne sous-estimez pas le pouvoir que vous avez. Le quoi qu'il en coûte, le soutien aux entreprises, le soutien aux salariés, qui a sauvé l'économie française, ben, sans le soutien du peuple français, sans le vote du Parlement français et des députés français, ça n'aurait pas été possible. La loi sur le pouvoir d'achat, avec un certain nombre de mesures, ben, sinon pas la majorité, on ne peut pas faire voter ce paquet pour le pouvoir d'achat et ce soutien massif au pouvoir d'achat que nous prévoyons avec le président de la République. Que chacun prenne conscience du pouvoir qu'il a.
Mais on note que vous appelez à faire de la politique, c'est-à-dire que vous appelez la majorité peut-être aussi,
oui,
le gouvernement.
Oui, la politique, c'est bien, la politique, c'est noble, la politique, c'est digne. Oui, ça n'est pas ce qu'on en dit. Et donc, ne pensons pas que nos choix peuvent se résumer à des principes purement technocratiques. Nous sommes, derrière le président de la République, une majorité qui a une cohérence politique et qui doit retrouver du goût à faire de la politique.
Il ne vous a pas échappé que vous êtes embourbé dans un début de mandat marqué par les polémiques. Est-ce que c'est cela qui vous anesthésie ? L'opposition vous décrit comme,
personnellement,
comme groggy.
Je ne ce matin.
Je ne dis pas forcément
groggy,
vous.
Groggy, dans les cordes.
C'est ce que dénonce l'opposition.
Au milieu du ring, comme beaucoup d'autres, très tonique, très engagé et surtout avec une ambition. Donner le meilleur aux Français.
Vous connaissez que vous avez été débordé en début de mandat, quand même. Une polémique par jour, quasiment, c'est presque inédit.
Oui,
on va tous les citer, on va en parler
quelques-unes. Quand je vais à Célestat, à Colmar, à Dijon, à Firminy, à Saint-Étienne, j'en ai vu des Françaises et des Français. Il n'y en a pas un qui m'a parlé de ces polémiques. Pas un.
Pas un qui a été touché par l'image de la France.
Mais de France, du tout.
Je vous parlais d'autres polémiques, je pensais que vous parliez d'autres polémiques, mais je ne crois pas que ce soit ce qui, aujourd'hui, préoccupe le plus nos compatriotes. Ce qui les préoccupe, c'est le pouvoir d'achat, l'avenir de leurs enfants, ce que nous allons leur proposer pour cette majorité. Et c'est là-dessus que je me concentre.
Mais permettez de revenir à la question, vous parlez de polémique, vous avez laissé de côté celle du Stade de France, de la sécurité au Stade de France. Est-ce que depuis une semaine, cette question n'est pas en train de paralyser ou votre majorité ? Vous n'êtes pas en train de vous y embourber avec les supporters anglais ?
Pardon, mais nous avons su organiser de magnifiques manifestations sportives dans le passé.
Bien sûr.
Nous organiserons en 2023 la Coupe du Monde de rugby, nous organiserons en 2024 les Jeux Olympiques et nous ferons très bien. Tout ce qui s'est passé au Stade de France est profondément regrettable. Et je présente,
qu'est-ce qui s'est passé,
je présente mes excuses
de
membres du gouvernement à tous ceux qui ont vu la fête gâchée.
Par qui ?
Que ce soit des supporters, qu'ils viennent de Grande-Bretagne, qu'ils viennent d'Espagne ou qu'ils viennent d'ailleurs, tout ça est infiniment regrettable. Il y a une enquête, plusieurs enquêtes d'ailleurs, qui sont menées. Laissons les enquêtes aller à leur terme. Mais ce que je ne comprends pas, c'est cette manière qu'on a de mettre systématiquement la tête sous l'eau des Français, de ne pas voir de grandes réussites ailleurs, de systématiquement, et ce qui s'est passé au Stade de France, je le redis, c'est regrettable.
Là, il y a des témoignages, il y a des images.
Non, bien sûr, mais enfin, la vie
réelles.
De la France ne se résume pas.
Il y a des Anglais qui ont dit qu'ils ont été dépouillés, agressés. Pourquoi ne pas le reconnaître
et s'excuser officiellement ? La vie de la France ne se résume pas au Stade de France.
Mais ça donne une image de notre pays, monsieur le ministre. Vous lisez plus que moi la presse internationale.
Ce qui s'est passé est regrettable. C'est d'autant plus regrettable que cela affecte l'image de la France à l'étranger.
Vous auriez ciblé les Anglais comme ça ?
Mais je ne suis pas responsable de ces sujets-là. Je dis simplement, il y a une enquête qui est en cours. La vie de la France ne se résume pas à ce qui s'est passé au Stade de France. Et je trouve qu'on peut aussi regarder, tout en présentant ses excuses comme je l'ai fait, tout en disant que les enquêtes doivent aller jusqu'à leur terme, regarder aussi tout ce qui se fait de formidable dans notre pays, tous les événements positifs, tout ce qui se passe en termes de création d'entreprises,
fort heureusement
de création
que notre pays peut organiser de telles organisations sportives. La question, c'est que vous lisez la presse anglaise et d'autres presses vraiment internationales qui a parlé de l'image de la France. C'est en cela qu'elle a touché. Il y a un sondage qui indique qu'une grande majorité de Français a éprouvé un sentiment de honte. Ce n'est pas négligeable quand même.
Bien sûr que ce n'est pas négligeable. Je dis simplement, cet événement est passé. Dans la vie, voilà, il y a des événements qui sont regrettables. C'est un événement qui est profondément regrettable.
Mais ce n'est pas symptomatique d'une certaine inquiétude par rapport à la sécurité ? C'est quand même la question qui est revenue.
Mais que la sécurité soit au cœur de nos préoccupations, c'est une évidence. Enfin, je rappelle que nous sommes une majorité qui a recruté 10 000 policiers supplémentaires. que nous finançons une loi de programmation pour l'intérieur qui est une des plus ambitieuses de ces dernières années. Mais attention à ne pas confondre un événement regrettable et la vie de la nation. Parce que je trouve, mais parce que à force de systématiquement revenir là-dessus, dire que la nation française aurait été humiliée et en faire des tonnes sur le sujet, je pense qu'on passe à côté de la vie de la nation. La vie de la nation ne se résume pas à un événement infiniment regrettable qui s'est passé au Stade de France.
On va évoquer d'autres, pas polémiques en tous les cas, la suite de ce qui s'est passé au début de mandat. Qu'est-ce que ça dit aussi sur la politique à long terme? Votre vision à vous, particulièrement, Bruno Le Maire, on marque une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews.
Europe 1, 10h, 11h, le grand rendez-vous avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Mathieu Bock-Côté, Sonia Mabrouk.
Et avec un ministre très politique, numéro 2 du gouvernement, ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Et la question que vous est posée par Cécile Cornudet.
Oui, venons-en à votre positionnement, Bruno Le Maire. Vous êtes un ministre de droite, vous venez des rangs de la droite et vous cohabitez dans le gouvernement avec des personnalités qui portent une autre ligne, comme le ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye. Est-ce que la cohabitation va bien se passer?
Il n'y a pas de cohabitation. Il y a de la cohésion. Non, il n'y a aucune cohabitation. Moi, je n'aime pas la cohabitation. La cohabitation est un empêchement institutionnel. Donc, je pense que le pays a besoin d'avancer, d'avancer vite, d'avancer fort. Et donc, il faut qu'il y ait une équipe totalement soudée. C'est le cas autour de la première ministre Elisabeth Borne et derrière le président de la République. Je ne peux pas concevoir d'autres
pour voir s'il y a cette cohésion. L'opinion a révélé cette semaine qu'il y avait une prolifération des tenues islamiques à l'école. Est-ce qu'il faut que le ministre de l'Éducation mette le holà à cette diffusion?
Je pense que le président de la République était très clair. Il n'y a pas de place en France pour des signes extérieurs. C'est à lui de décider. Je ne suis que ministre de l'Économie et des Finances. Mais c'est à lui de le décider. Mais il n'y a pas de place pour les signes ostensibles, religieux, à l'école. C'est la loi, et la loi doit être respectée. Mais je reviens à la cohésion de ce gouvernement. On a la même ambition, le plein emploi, l'accélération de la transition énergétique. Il n'y a rien de plus important. Et chacun des ministres, la Première ministre l'a dit très clairement, doit se sentir responsable de l'accélération de la transition énergétique. La défense de la nation... Oui. Avec la lutte contre la délinquance, l'insécurité ou l'islam politique, et en dernier lieu, la construction européenne. Tout ça nous rassemble au-delà d'un clivage droite-gauche dont j'ai déjà dit à plusieurs reprises, je ne vais pas me répéter que pour moi, il est caduque.
Il est caduque, mais la question, on imagine évidemment qu'on se rassemble tous derrière ces grands défis pour notre pays, mais est-ce que vous vous reconnaissez, par exemple, dans toutes les déclarations? Elles ont été exhumées, non pas pour nuire au ministre de l'Éducation, mais pour comprendre. C'est un intellectuel, un universitaire qui a travaillé. Est-ce que vous vous reconnaissez dans toutes ces déclarations?
Moi, il m'inspire beaucoup de fierté. Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Beaucoup de fierté. D'abord, de la fierté par la rigueur de ses travaux intellectuels. J'ai été universitaire. C'était mon premier métier. Alors, moi, je n'ai pas travaillé sur le racisme, j'ai travaillé sur Marcel Proust. C'est un peu différent, mais j'ai toujours beaucoup de respect pour le travail universitaire. Pap Ndiaye a fait des travaux universitaires de très grande qualité. Respect. Pap Ndiaye a un parcours personnel qui est singulier et fort. Respect. Pap Ndiaye est capable de passer de la société civile à la vie politique, respect. C'est un homme qui m'inspire du respect et de la fierté.
Je l'entends bien, vous respectez avec raison son travail universitaire. Je devine néanmoins que vous pouvez avoir des désaccords de fond, peut-être avec certains concepts qu'il avançait.
Mais on peut avoir...
Je vous donne un exemple. Lorsqu'il dit que le racisme anti-blanc n'existe pas, que c'est une impossibilité théorique, je devine que vous êtes en désaccord avec lui sur ça.
Mais je ne vais pas me lancer dans des grandes réflexions théoriques sur le racisme anti-blanc.
C'est plutôt
concret quand même. Non, c'est pas concret, ce que je me méfie de ces mots à l'emporte-pièce. Mathieu Bock-Côté, je pense que c'est pas comme ça. Je pense que s'interroger sur le racisme dans une société, c'est sain.
Bien sûr.
Et que c'est bon d'avoir des débats.
Évoquer les races, est-ce que ce n'est pas racialiser, au contraire, le débat?
Je pense que se poser la question dans une société de ce qu'est le racisme, y a-t-il du racisme, comment est-ce qu'on le combat?
Affirmer qu'il y a du racisme structurel en France, c'est sain?
Et c'est nécessaire. Ensuite, on peut avoir des appréciations qui vont être différentes, mais ce qui nous rassemble avec le ministre de l'Éducation nationale, c'est une vision universaliste de la nation française. Nous ne sommes pas des communautaristes. Nous croyons une République universelle. Nous croyons à la République des Lumières. Nous croyons à l'élévation des gens par la raison. Ça nous rassemble. Et c'est pour ça que moi, je suis heureux et fier de siéger au Conseil des ministres avec la Première ministre Elisabeth Borne, sous l'autorité du président de la République.
Donc ça sera sa ligne au ministre de l'Éducation, c'est ce que vous dites
ce matin. Tout ça me paraît cohérent et utile pour le pays. J'ajoute une chose, c'est qu'il est important qu'un gouvernement ressemble aussi à la société française et qu'il ne soit pas composé de personnes qui soient toutes identiques, avec exactement les mêmes parcours universitaires, les mêmes expériences. C'est très important. Parce que la société française elle-même, elle est diverse, rassemblée autour de cette
personne
idée d'universalité de nation.
Diversité. On
mais avoir
sur
la
les
diversité dans un gouvernement, je pense que c'est bon.
Oui. Même si parfois, sur certaines déclarations, on peut être en opposition. À la fin, ce sont les défis qui vous rassemblent, c'est bien ça?
Non, je pense que ce qui nous rassemble, c'est une conception commune de la nation et la volonté surtout de servir les Français. Vous savez, moi, la ligne rouge de mon engagement politique depuis maintenant 20 ans, c'est le service des Françaises et des Français.
Alors justement, évidemment, c'est la même, évidemment, le même attachement que le président Emmanuel Macron. Mais à un moment du quinquennat, quand même, Bruno Le Maire, et fatalement, il faudra qu'on en parle, Emmanuel Macron, parce qu'il ne peut pas se représenter, va être challengé, en tout cas confronté à la réalité de tous les aspirants à la présidentielle de son propre camp. Est-ce que vous anticipez ce moment qui va être particulier, presque inédit dans ce quinquennat à venir?
Ce moment n'est pas venu.
Il va venir.
Il viendra.
Ne me dites pas
ce
que moment, vous n'y pensez pas.
Ce moment n'est pas venu et je n'y pense pas en me rasant.
Un président qui ne peut pas se représenter n'a-t-il pas une date de péremption, pardonnez-moi, collée sur le front?
Vous savez, je vais être très, très direct. Ça demande beaucoup de sacrifices d'être ministre. C'est un immense honneur, mais ça demande beaucoup de sacrifices personnels, familiaux, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de ses quatre enfants. J'ai quatre enfants. Ce n'est pas une vie facile. Je me suis posé la question, est-ce que je continue pour un quinquennat suivant? Et je n'ai continué que pour une raison. Faire de ce quinquennat un succès encore plus important que le quinquennat précédent. Sinon, je serais passé à autre chose. Donc, je vous le redis, je ne pense pas à 2027 en me rasant. Je pense qu'il n'y a que la classe politique et que le microcosme politique.
Il y en a d'autres qui pensent, vous savez très bien,
Édouard
Philippe notamment.
Mais quand on est responsable de l'économie française, dans une période qui touche tous nos compatriotes, quand je vois des ouvriers qui renoncent à aller travailler à leur usine parce que ils n'ont pas de quoi payer l'essence dans leur voiture, moi ce qui me préoccupe, c'est cet ouvrier qui n'a pas de quoi payer son essence pour se rendre chez Liber, grande entreprise industrielle qui se trouve en Alsace, à Colmar. C'est ça qui me préoccupe et uniquement ça. Et si j'avais eu autre chose en tête que servir les Françaises et les Français et donner le meilleur pour l'économie française, j'aurais fait un autre choix il y a quelques semaines.
Vous étiez encore plus libre pour ce second mandat, c'est pour ça qu'on vous pose la question. Il paraît impossible que vous ne pensez pas à la suite.
Être libre, Sonia Mabrouk, c'est pas penser à la suite. Être libre, ça se joue au quotidien. Être libre, c'est pas se laisser enfermer dans le jeu politique, mais la vie est mille fois plus imaginative que le jeu politique.
Mais
être libre, c'est se projeter dans l'avenir aussi.
Mais non, être libre, c'est pas se projeter dans l'avenir. Être libre, c'est donner le meilleur chaque jour. C'est ce que j'essaye de faire. Donner le meilleur chaque jour. Et il y aurait une vraie indécence de ma part, à penser à autre chose comme ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, que de penser à autre chose qu'à l'économie, les finances, la souveraineté industrielle et la souveraineté numérique.
Mais ce temps viendra, vous en êtes conscient. Non,
j'ai conscience.
Moment de silence.
Non, mais moment
dans
de silence.
Dans 4 ans, 4 ans et demi peut-être.
Non, on va reformuler la question.
Je crois que le moment n'est pas venu et je n'ai conscience que d'une chose, parce que c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens, c'est ce que je vis. J'ai conscience des difficultés de mes compatriotes. Enfin, c'est de ça dont j'ai conscience.
Le maire, bien
donc vous
sûr.
Pensez vraiment que dans ma tête, là, tout d'un coup, je me dis, tiens, il y a...
Non. Mais non, par exemple, vous avez fait des choix. Vous avez choisi...
Je me dis, j'ai rencontré, je reviens à cet ouvrier qui m'a marqué, avec lequel j'ai discuté, qui m'a dit, moi, j'adore mon boulot. J'adore faire des machines de chantier chez Liber à Colmar, en Alsace. Mais je ne peux pas payer 200 euros de plus de facture d'essence par mois. Qu'est-ce que vous faites pour moi ? C'est ça ma responsabilité.
Nous avons consacré la quasi-entièreté de l'émission et personne, évidemment, on y pense tous et nous sommes dans l'Oréal. La question, c'est que vous avez fait des choix politiques. Vous avez choisi, par exemple, de ne pas rejoindre le parti. Et le pari d'Edouard Philippe, ça dit bien quelque chose pour la suite. Je ne me trompe pas.
Enfin, ça dit absolument rien. J'ai fait un choix en 2017.
Ben oui.
J'ai fait un choix il y a 5 ans qui est de rejoindre...
Que vous maintenez.
Qui est de rejoindre... Mais est-ce que vous avez l'habitude de changer mes choix ? Mes choix sont en général clairs, cohérent et constant. J'ai dit qu'il fait le renouvellement des pratiques politiques et que je ne ferai que 3 mandats. Quand j'arrive à la fin de mon 3e mandat, je ne me représente pas. Et il y a des gens qui me posent une question. Ah, mais pourquoi est-ce que vous ne vous représentez pas ? Bah, tout simplement parce que je l'ai promis. C'est simple. En 2017, j'ai fait un choix très clair et très tranché. J'ai rejoint le président de la République. J'ai adhéré à son parti et je me suis présenté sous les bannières de ce parti aux élections législatives. Je ne vais pas changer de positionnement. Je suis engagé dans la majorité, dans le parti présidentiel, pour le président de la République et pour le succès de ce quinquennat, Full stop.
Vous allez intégrer l'équipe dirigeante du nouveau parti qu'il veut refonder sous le nom de Renaissance ?
Si le président le juge utile, oui.
Pour conclure, Bruno Le Maire, par rapport à la saison 1, comment sera le Bruno Le Maire saison 2 pour ce quinquennat ? Plus libre ? Plus combatif, voulait-il ?
On peut dire
toujours
ça.
Aussi politique ?
Tout ce que vous me dites me va très bien.
On les trois à la fois, alors.
Les trois.
Merci Bruno Le Maire.
Hommage et décès.
Toujours. Merci d'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades, évidemment, Cécile Cornudet et Mathieu Bock-Côté. C'est un plaisir d'être avec vous tous les dimanches. Bonne journée, bon dimanche sur nos antennes communes. Europe 1.